Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est le NRV du jeudi, le dernier de la semaine et il fait coup double. Ça commence dès 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast et puis ça recommence 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, roman familial et théâtre intime pour deux disparus avec Clémentine Autain, députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous revenez sur la figure de votre mère, l'actrice Dominique Lafin, dans un récit formidable. Dites-lui que je l'aime, Dominique Lafin, César pour une femme qui pleure, disparue à l'âge de 33 ans en 85, suicide accidentel. Le livre débute comme un règlement de compte et se construit comme le portrait lumineux d'une féministe fragilisée par le cinéma des années 70-80. Clémentine Autain, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Marianne Bassler, seule en scène dans L'autre fille, un texte d'Annie Ernaux, une lettre adressée à sa sœur disparue à l'âge de 6 ans, un secret de famille qui trouve enfin les mots pour le dire. Marianne Bassler, bonsoir.
Bonsoir.
Comme chaque jeudi, Marion Guilbeault va dérouler la programmation des nouveautés nouvelles, le meilleur des albums à venir, juste avant le week-end, Marion.
Et c'est une chronique qui sera sous le signe du retour, le retour de la pop, le retour du cool, le retour de la guitare avec Bill Pritchard, Mac DeMarco et les Black Keys.
Et dans le NRV, la suite, Algérie vers un autre printemps arabe. Christophe Boursaillier, vous avez trouvé In Extremis un autre titre.
C'est-à-dire que c'est la question que se posent aujourd'hui tous les Algériens. Faut-il bouter Boutef? Et donc, on va essayer de débattre là-dessus avec vous, avec moi, bien sûr. Il y aura également Naoufel Brahimi El Mili, qui est politologue, il vient de sortir France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Il y aura Mohamed Sifaoui, directeur du magazine Contre-Terrorisme, et qui lui sort un livre qui s'appelle Où va l'Algérie et les conséquences pour la France. Et puis Fouzia Marouf, qui est journaliste franco-algérienne.
Et bien voilà, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc, récits familiaux ce soir avec vous deux, Clémentine Autain et Marianne Bassler. Vous vous connaissiez ?
De nom, comme on dit.
De nom.
De nom. Moi, j'adorais votre maman.
Dominique Lafin.
Oui, il y avait une comédie qu'elle avait écrite, Les Petits Câlins, qui a été un choc pour moi. Ma mère, en l'occurrence, m'emmenait beaucoup au cinéma quand j'étais adolescente. Elle m'emmenait voir tous les Robert. J'ai dû voir 5 fois Le Genou de Claire et j'ai vu Les Petits Câlins.
De Jean-Marie
Poiret.
J'avais
eu un coup de foudre pour votre mère.
Les Petits Câlins, vous pensiez d'ailleurs dans le livre, vous parlez de ça, au départ vous pensiez que c'était un film mineur, une petite comédie, et en fait vous avez été surprise en le regardant, Clémentine
Autain. J'avais un souvenir, je l'avais vu sans doute adolescente ou en tout cas jeune adulte, et j'en avais un souvenir, oui, pas très fort, et en le revoyant, je trouve que c'est vraiment un film d'époque très réussi. C'est une bande de copines qui cherchent la façon d'être libre et d'avoir des relations de séduction, des relations amoureuses d'un nouveau genre, et c'est pas si simple. Et le film raconte ça, et c'est totalement d'époque, et c'est assez réussi. Hein.
Ça va mieux maintenant quand on vous dit j'adore votre mère, j'ai adoré votre mère, alors qu'à l'époque, maintenant ça va, parce qu'à l'époque, manifestement, c'était pas du tout ça. Hein. Par exemple, dans le livre, il y a Elise Moon qui vient vous voir et qui vous dit: vous savez, vraiment, ça a été les émois de ma période d'adolescent. J'adorais votre mère, elle a représenté quelque chose. Et là, généralement, à l'époque, vous vous fermiez, c'était vraiment la carapace.
Je me suis très très longtemps fermée, oui. Bien bien carapacée. J'ai rencontré au cours de ma vie plusieurs personnes qui avaient bien connu ma mère ou qui étaient fans de ma mère. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai fermé la porte complètement. J'avais pas du tout envie qu'on me parle d'elle, qu'on me raconte cette admiration. Et j'avais l'impression qu'on me parlait de quelqu'un que je connaissais pas, d'une certaine manière, ou en tout cas qui n'avait pas de relation avec la personne
que vous aviez,
que moi j'avais connue et qui était ma mère. Et comme je le dis dans le livre, c'est vrai que j'ai considéré en Dominique Lafin ma mère avant tout, et plus que la femme et plus que la comédienne.
Vous la connaissiez aussi, Christophe?
Moi, j'ai rencontré Dominique Lafin. Alors,
c'est un complot.
À la fin des années 70, lorsqu'elle tournait La femme qui pleure de Jacques Doyon, un film extraordinaire dans lequel elle irradie vraiment. C'est un film, je trouve, dans lequel elle explose complètement.
Elle a César, pour
c'est
le
un
film
qui avait
elle a été nominée. Elle
nominée,
a pas eu, c'est Miu Miu qui a eu le César cette année, mais elle a été nominée, oui.
Oui, et c'est un film qui était produit par Daniel Delorme, les films de La Guéville, dont j'étais très proche, que je tournais à l'époque en tant que jeune comédien dans les films d'Yves Robert, le mari de Daniel Delorme, mais je me souviens qu'elle était très amie avec ma mère, l'actrice Chantal Dargé, disparue également, et ma mère disait toujours qu'elle admirait Dominique Lafin, parce qu'elle disait: j'ai jamais vu quelqu'un avoir un tel besoin de jouer. C'est-à-dire qu'elle l'était, elle aurait fait, Dominique Lafin, selon ma mère, je me souviens, elle disait, elle aurait fait n'importe quoi pour jouer. Il fallait qu'elle joue. Elle ne pensait qu'à ça. Elle cherchait des pièces, des textes. Elle disait, ma mère avait une formule, elle disait, je sais pas comment elle fait, elle est transistorisée. Je me souviens de cette phrase qui m'est restée par-delà les décennies, vous voyez.
Clémentine, notamment.
C'est vrai qu'elle jouait. Ouais. Elle jouait. Au quotidien aussi. Elle jouait beaucoup. Ouais.
Et notamment, il y a un détail qui m'a vraiment troublé, puisque vous parlez de jouer, c'est qu'elle adorait les trompe-l'œil. Il y a quelque chose avec ça.
Tout le temps. Alors, cette fameuse histoire où j'appelle Richard Kolinka, après avoir posé ma colère vis-à-vis d'elle, je me suis dit, je vais aller voir des gens qui l'ont connue, et je voulais commencer justement par le contre-pied par rapport à cette mémoire d'une enfance pas très heureuse à ses côtés. Et je me dis, tiens, un beau souvenir, un truc chouette. Et je pense au groupe Téléphone et à Richard Kolinka, qui était évidemment son amant à l'époque. Je dis évidemment parce que j'en étais absolument persuadée, tout le monde m'avait raconté ça. Et j'avais un souvenir très joli de cet appartement avec un jukebox en entrant, etc. Et donc, je me débrouille pour trouver le numéro de téléphone de Richard Kolinka et qui était désolé de m'arrêter en me disant qu'il n'a jamais été l'amant de ma mère. Donc, c'était quand même
première
faille dans ce rapport entre histoire et mémoire. Ouais. Parce que c'est vraiment un livre aussi sur ça, sur la différence entre l'histoire et la mémoire. Il y a un gouffre, et là, le gouffre était assez important. Et il essayait de me consoler, il voulait trouver quelque chose pour parler de ma mère quand même, parce qu'il voyait bien que j'étais un peu sur le flanc. Et il me raconte qu'elle lui avait offert des assiettes en trompe-l'œil qu'il a gardées jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'a jamais cassées en dépit de ses déménagements. Et elle aimait beaucoup, oui, tous les trompe-l'œil.
Oui, même lors d'un goûter, je crois qu'elle amène des petits fours. Et en fin de compte, ces petits fours, c'est des faux. C'est-à-dire, c'est des trompe-l'œil. Ouais. Donc, c'est un rapport, bien sûr, avec cette capacité d'être actrice. Vous vous êtes tenue très longtemps éloignée de ces films, parce que j'ai pu lire, d'ailleurs, dans un entretien, ce n'est pas dans le texte, hein, mais dans un entretien, que vous la trouviez mauvaise actrice aussi.
Oui, c'est vrai. Je la trouvais fausse, absolument fausse, à part dans La femme qui pleure, où là je la reconnaissais de façon... Enfin, c'était en tout cas vraiment le souvenir que j'avais d'elle, une femme, cette femme qui pleure, cette femme en colère, cette femme à fleur de peau. Mais par exemple, dans Les petits câlins, ou encore plus dans Garçon, c'était des
rôles... Claude Sauté,
oui. Oui, de Claude Sauté. Soit dans Les petits câlins, c'était assez elle, mais c'était une femme dont je n'ai pas souvenir, parce que c'était quand j'étais beaucoup plus petite. Ou alors dans le Claude Sauté ou dans Dites-lui que j'aime, c'était des rôles davantage de composition et je la reconnaissais pas. Et du coup, je la trouvais fausse. Et comme j'avais un rapport à elle assez conflictuel, du coup j'avais décrété qu'elle jouait mal. C'était plus simple quand même pour se raconter des histoires, c'était bien.
Marianne Bessler, non.
Non, moi je trouvais qu'il y avait un contraste entre un visage extrêmement doux, détendu et une espèce d'acuité intérieure très forte, et c'est ça que je trouvais intéressant. Mais c'est quelqu'un que j'ai vu pendant mon adolescence. Je n'ai pas revu ses films, mais elle m'est toujours restée très 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 fortement en mémoire.
Mais aujourd'hui, quand je regarde, je suis au contraire très épatée. Je la trouve d'abord d'une beauté incroyable et avec cette voix cassée. Enfin, elle a une présence,
liberté,
comme on dit.
Incroyable.
Une liberté aussi.
Vous parlez du mot liberté, mais c'est vrai que ça lui correspond. Elle porte bien ces années-là, mais au-delà, avec beaucoup de force.
Le livre, on va y rentrer dans quelques instants, on va partir aussi au théâtre avec Marianne Bessler. Le livre vient pacifier l'image que vous aviez d'elle, mère alcoolique, imprévisible, absente, systématiquement en retard, mais ça vient aussi corriger l'image que vous aviez d'elle, actrice, au point qu'on a pu vous voir actrice vous-même récemment dans un film, L'amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebaud, extrait.
On habitait ensemble, puis on a décidé donc de se séparer. Alors on a décidé d'emménager ensemble, mais séparément. Moi j'ai mon appartement d'un côté, il y a les enfants au milieu et elle a son appartement de l'autre côté. Et du coup, les enfants circulent comme ça. Tout le monde est heureux et moi, je suis libre comme l'air, en fait.
Mais c'est formidable. C'est une réponse incroyable à la crise du logement.
Ouais, enfin, c'est surtout une formidable réponse à la crise de mon couple.
Mais non, mais regardez, vous aviez chaque année 130 000 personnes qui divorcent. 130 000 couples et qui n'arrivent pas à trouver de logement. Il y en a qui d'ailleurs divorcent pas à cause de ça. Hein. Et puis il y a d'autres couples qui se retrouvent du coup dans des appartements tout petits.
Ah non mais attendez, chez moi c'est très très, très cosy. Hein. On y est bien, vous verrez. Enfin, pourquoi
je vous dis ça ? Non mais c'est bien, moi je suis admirative. Vous participez de façon active au recul de la crise du logement.
Alors, c'était une bonne expérience, Clémentine Autain,
actrice. C'était rigolo, c'était tout à fait imprévu. Et j'ai accepté parce qu'on ne peut rien refuser à Romane Bohringer. qui est venu me voir pour me demander de faire cette apparition dans le film pour jouer mon propre rôle. Et elle est incroyable, Romain de Moringer. Et d'ailleurs, le film est assez incroyable. Elle est venue en me disant, mais c'est une toute petite chose, on fait ça, on ne sait pas trop, on n'a pas encore tout à fait les fonds, on est trois. Enfin bon, c'était comme un truc de bricolage. Et en fait, le film, le film est épatant.
Vous vous êtes trouvé comment à l'écran?
Je me suis pas trouvée, je sais pas.
Vous vous êtes pas trouvée à l'écran?
Non.
Est-ce que vous êtes trouvée belle, par exemple, à l'écran?
Pas spécialement, non. Je sais pas. C'est difficile de parler de soi. Je suis pas actrice, donc c'est pas du tout. Je peux avoir un point de vue si je me vois dans un débat politique. Si
oui,
je
mais
me
là,
me
vous
vois...
vous trouvez bonne, vous vous trouvez excellente, percutante.
Bon, au cinéma, c'est impossible. C'est impossible de dire. La seule chose que je peux dire, c'est sans doute une certaine familiarité dans l'exercice que eux trouvaient, et je le reconnais volontiers. C'est pas quelque chose qui me bloque ou qui. J'ai fait ça comme s'il y avait pas les caméras. On a fait ça très simplement. En plus, bon, on peut pas dire qu'il y avait la batterie, les techniciens, quelque chose de très impressionnant. Et voilà, faut justement, je pense, d'ailleurs, dans le rapport à l'image, en règle générale, pas trop se regarder. Je pense que c'est une bonne règle pour être un peu juste, je crois.
Maëlle Bassler, on va parler théâtre avec vous, et d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, d'ailleurs, que vous avez en commun, puisqu'elle est citée dans votre livre, Clémentine Autain. Vous vous souvenez de votre première apparition au cinéma? Comment vous vous étiez trouvée, vous, Maëlle Bassler?
Non, je ne me souviens pas de ma première apparition au cinéma. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que dit Clémentine, moi, quand je me trouve belle, entre guillemets, à l'écran, je me dis « tiens, la lumière est bien ». Et quand je me trouve moche, je me dis « la lumière est moche ».
Donc ça dépend du chef opérateur.
Et c'est une question que j'avais posée à Paul Vecchiali, avec qui j'ai fait mon premier grand film.
Rose à la Rose.
Rose à la Rose. Je disais tout le temps « mais on n'arrête pas de dire qu'elle est belle. Comment
vous étiez sublime dans le film. Ouais.
Et alors il m'a dit « sens-toi belle ». Et tu seras belle. Mmh. J'avais trouvé ça une réponse formidable. Après, on ne se pose plus de questions.
On vous écoute justement dans Rose à la Rose.
Dieu, que les hommes sont doux quand il leur prend le mal d'amour. Dieu, ce qu'un homme peut faire quand on a le bonheur de lui plaire. Dieu, que j'aime tes yeux fous quand tu me dis c'est pour toujours. Dieu, ce serait si facile si on pouvait croire en vos détours.
Ça, c'est votre premier grand rôle au cinéma.
Alors, souvent, les chansons dans les films, ça se fait en playback.
Bah, bien sûr, bah oui, mais ça, c'était en direct, toujours avec Paul Vecchiali. Vous nous aviez demandé, parce qu'on vous a demandé à chacune des sons qui vous ont marqué, des sons qui vous ont construit, vous nous aviez demandé un son d'accordéon qui vous rappelait justement ce premier film.
Bah oui. On avait beaucoup travaillé sur les musiques, puis c'est un instrument qui accompagnait beaucoup ce premier film, qui m'évoque beaucoup de choses d'une France populaire, des villages, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et là on refait un film ensemble dans très très peu de temps.
Quel âge a Paul Vecchiali?
Je ne lui ai pas demandé. Il n'a pas d'âge. Il
n'a plus d'âge. Oui. C'est notre Manuel de Oliveira à nous ici en France.
Oui, il trouve toujours les financements. Il nous appelle. J'ai l'argent. Et puis on va tourner comme il faut, pas du tout à l'arrache. On tourne avec une vraie équipe. Au départ c'était dans ses cuisines. Maintenant, c'est des...
Il a trouvé une autre cuisine.
Non, c'est des budgets de plus en plus conséquents et des moyens. Il n'y a pas longtemps, il avait un film à Cannes avec Catherine Deneuve. Ouais. L'année dernière, on en a fait deux ensemble, Les Sept Déserteurs et Train de Vie. Non, je pense qu'il est le metteur en scène qui a été le plus célébré dans les festivals du cinéma français. Ouais.
Un son de télévision pour vous, Clémentine Autain.
Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'Amérique au ré. L'ami du petit déjeuner, l'ami rigoré.
Ils étaient formidables dans cette famille, pas comme dans la vôtre, Clémentine Autain. C'est ça que vous racontez en fait.
Oui, c'est un peu le symbole de la famille à laquelle j'ai rêvé, qui n'existe sans doute pas, et à laquelle je ne rêve évidemment plus du tout, mais qui était ce symbole d'une vie comme ça, réglée comme du papier à musique. Tout le monde est blond, tout le monde a un sourire incroyable. Alors évidemment, c'est un sourire commercial et c'est un monde qui est un monde auquel je n'aspire pas du tout aujourd'hui, mais à l'époque, ça me faisait assez fantasmer.
C'est-à-dire l'exact opposé de ce que vous pouviez vivre avec votre mère.
Oui, puis on voyait cette famille unie, toujours souriante, radieuse, le petit déjeuner à l'heure, avec tout, le jus d'orange frais, enfin bon, un truc.
Oui, mais c'est quelque chose que vous alliez vérifier dans la famille des autres. Parce que la famille des autres avait, en fin de compte, celle que vous rencontrez, avait cette particularité d'être presque des familles récorées.
Oui, mais c'est aussi, comme je dis dans le livre, c'est un peu comme Yasmina, le livre de Yasmina Reza qui m'a beaucoup marqué, qui est « Heureux les heureux ». Alors le titre, on se dit « Tiens, on va nous parler des gens heureux ». Et en fait, c'est justement cette grande différence entre qui existe fortement dans la bourgeoisie. On essaye de maintenir la bienséance, que rien ne déborde, que tout soit en ordre. Et dès qu'on gratte un peu, c'est toujours plus compliqué que ça. Donc chez moi, ça débordait, c'était de travers. Mais au fond, il y avait aussi de la joie. Il y avait aussi
on rigolait bien. Le terme « rigoler » arrive systématiquement, d'ailleurs, vous ne dites pas on riait, mais on rigolait avec votre mère.
Ouais. On rigolait, ouais. Pas tout le temps.
Non, ça.
Il y a des fois, on rigolait pas du tout, mais on pleurait aussi, mais on rigolait beaucoup. Mais c'est plutôt un trait familial aussi très fort. Ma grand-mère rigolait tout le temps, elle nous racontait des horreurs en rigolant, ou des drames qui lui étaient arrivés en rigolant.
On
a toujours beaucoup, beaucoup rigolé.
On parlera de cette grand-mère très particulière aussi dans quelques instants.
Moi, je ne peux pas vivre si on rigole pas.
Un son plus particulier pour vous, Marine Bessler. En quoi ce son vous correspond, ce son de guerre que vous nous avez demandé ?
Mais j'ai toujours été, j'ai toujours eu le sentiment que la violence était très, enfin vous parliez de violence concernant votre mère et moi j'ai toujours eu le sentiment aussi que la violence était très très présente dans mon histoire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'aller aussi à la rencontre de l'histoire d'Annie Ernaux et de ce texte-là qui m'évoque ma propre mère, donc c'est un peu une émission sur
la mère. Manifestement, c'est comme ça qu'on l'a construite.
Un grand M. Et puis, c'est vrai que je rêvais beaucoup de guerre quand j'étais petite, donc je devais être traversée par beaucoup de violence. Et c'est vrai encore que ces dernières années, tous ces migrants qui arrivaient en France, ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai eu envie d'aller à leur rencontre, de leur apprendre le français.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui, j'ai croisé des destins terrible. C'est vrai qu'on voit, surgir des gens qui sont mutiques et d'ailleurs que ce mutisme même parle pour eux de cette violence qu'ils ont pu croiser, notamment un Soudanais. Et voilà, je pense que j'ai grandi pas dans la terreur de la guerre comme Annie Ernaux l'a décrit, elle est née en 40, elle parle toujours des bombardements, le mot bombardement revient beaucoup d'ailleurs
dans ce texte
de l'autre fille. Et elle dit d'ailleurs que quand elle évoque le fait qu'elle-même a failli mourir du tétanos, elle dit qu'elle en garde un souvenir bien moins terrible que des bombardements. Mais voilà, enfin moi c'est une espèce de mémoire empruntée, peut-être que ma mère à moi, qui me faisait beaucoup rire aussi, mais qui a été très marquée par la guerre, qui est plus de la génération d'Annie Ernaux, me racontait beaucoup de choses qui m'ont donné peut-être envie, moi, de me servir de mon métier, d'être intermédiaire des textes des autres. Je n'ai pas la capacité de moi-même, je me sens ou trop pudique ou trop enfermée, mais c'est comme un cadeau, les textes d'Annie Ernaux, de pouvoir s'exprimer à travers eux.
On va revenir sur vos deux parcours dans quelques instants. On va bien sûr parler des années 70-80 avec vous, Clémentine Autain. Tout de suite, on reste dans les années 80 avec une des reines de la pop française et actrice, Lio, amoureuse solitaire dans le NRV.
Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes de plaisir chimique pour nos cerveaux.
Christian Autain, vous connaissez la chanson par cœur,
bah
je vous vois susurrer.
Oui, c'est toute ma jeunesse.
Vous aviez dansé
mon enfance, là, on est plutôt dans l'enfance.
Quand même, oui, c'est ça, ouais, les années 80, ouais.
Oui, ouais, c'est les premières chansons avec Les Brunes comptent pas pour des prunes et tout ça, oui, c'est ça, bercé tout à fait mon enfance.
Vous êtes une reine de karaoké?
Je suis une reine de... N'exagérons rien, je fais rarement des karaokés. Je vois que vous avez lu...
Bah oui.
Voilà. Mais j'aime beaucoup chanter. Je chante tout le temps, ça c'est vrai, je chante vraiment beaucoup et j'aime bien les chansons populaires.
Ouais, je sais ça.
Parce que les chansons françaises populaires, parce que quand je les chante, je me dis que d'autres les chantent et c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est de connaître des paroles et d'avoir l'impression qu'on est avec d'autres aussi.
Qui appartiennent
dans
à tout
cette
le monde.
Chanson.
Ouais. Ouais. Lio, c'est aussi un souvenir pour vous, Marianne Bassler?
Bah, c'est ma famille. Moi, j'étais à l'école avec elle. Son dernier fils, Diego Bellé, est donc le fils du parrain de mon fils.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un truc familial avec vous.
On va en vacances avec ses enfants. Enfin, bon, c'est un peu.
Oui, une famille
Les pépettes, comme on les appelle, les jumelles de Vanda, parce qu'elle s'appelait Vanda à l'école, donc à l'Athénée Ducle 1. À Bruxelles.
Donc vous l'avez vu exploser quand même?
Ah bah oui, bah moi j'ai vu une gamine, enfin on avait 13 ans dans la cour de récré, hein. Elle était très différente.
Mais quelle était cette cour incroyable de récré?
C'était une école géniale. C'est là que j'ai commencé à faire du théâtre. C'est un enseignement tel qu'il n'existe pas en France, où les profs étaient libres de nous parler de Solers, de Gursenar, de qui ils voulaient. Aujourd'hui, il y a des programmes débiles en France. Je ne sais pas comment vous faites, mais nous, les profs étaient libres. Ils nous emmenaient au théâtre et je me souviens que Vandel adorait se faire arrêter par les flics, faire des manifs et tout. Nous, ma copine et moi, on était plus timides, donc la sœur du père de son dernier enfant. Voilà, oui, on se voit régulièrement.
25 cigarettes, il n'est même pas réveillé. Pff, j'en ai marre.
T'as fini de téléphoner?
T'es folle, j'ai jamais fini. Quand j'ai fini, je recommence. C'est comme ça que je leur fais croire que je pense qu'elle... D'ailleurs, je pense beaucoup plus à eux quand je pense à plein d'autres que à moi quand ils pensent qu'à moi. Parce que moi, je m'esquine pas, tu comprends? Parce que moi, quand j'aime, c'est complètement.
Le nouveau rendez-vous?
C'est pour la vie, c'est pour toujours.
Sur France Inter.
Même quand j'aime pas, je finis par aimer.
Ça vous fait rire, Clémentine Autain. C'est Dominique Lafin, votre mère, qu'on entend ici dans un extrait de Tapage nocturne de Catherine Breillat. On est en 78. Ce film, vous l'avez vu?
Non, je n'ai pas vu Ta page nocturne.
Il en reste à voir.
Il m'en reste à voir, tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore vu Ta page nocturne.
Dites-lui que je l'aime, donc c'est le portrait d'une jeune femme des années 70-80, actrice, Dominique Lafin, qui va se brûler au cinéma. C'est la version que vous donne Marianne Sergent, qui l'a bien connue. Ça, c'est vers la fin du livre. Dominique Lafin meurt à l'âge de 33 ans. Vous aviez 14 ans à l'époque. Vous viviez avec votre père, le chanteur Yves Dautin, qui vous avait pris chez lui, votre mère n'étant pas vraiment capable de prendre soin de vous. Le livre, vous l'écrivez en partie pour répondre aux questions de votre fille sur sa grand-mère. En fait, qu'est-ce que votre fille voulait vraiment savoir? Parce qu'elle vous pose toujours des questions sur son retour, alors qu'elle sait pertinemment que sa grand-mère est morte.
En fait, alors mes deux enfants voulaient voir leur grand-mère, aller sur la tombe, poser des questions sur cette grand-mère, mais ce qui est vrai, c'est que ma fille, et c'est pour ça que j'y vois une filiation aussi de personnages féminins dans lequel on a envie de s'identifier, et ma fille insistait plus en s'étonnant, mais comment elle est morte, et elle trouvait toujours que mes questions, il n'y avait pas de réponse suffisante, donc elle revenait sans arrêt à la charge, et je pense qu'elle avait effectivement compris que j'avais pas très envie de la faire revivre, et qu'en tout cas je savais pas parler d'elle, et donc elle a éveillé chez moi une interrogation. Moi, j'avais bien enfoui tout ça, je voyais...
Vous l'aviez bien rangé, c'est ce que vous dites.
Voilà, je l'avais bien rangé.
Je t'avais rangé, je m'étais arrangé, mais il faut toujours que quelqu'un ou quelque chose me ramène à toi, c'est épuisant.
Et oui, ça, jusqu'à ma fille. Et là, quand c'est les enfants, c'est vrai que ça devient un peu, ça touche. Et je me suis dit, il faut
ça
que
veut
je
dire aussi quelque chose
j'ouvre
du silence
le cadavre
que vous aviez.
Dans le placard. et j'ai ouvert le placard.
Quelles sont les premières images d'ailleurs qui sont venues quand vous avez entrepris ce texte?
Quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'abord posé vraiment les scènes les plus noires en fait. Hein. Je pense que j'avais besoin de vider ce sac un peu dur de moments. Il y en a eu beaucoup, j'ai évidemment pas tout raconté, j'en ai raconté quelques-unes pour donner un peu le cadre, l'ambiance,
Votre mère, votre mère qui vous oublie à l'école, votre mère qui disparaît la nuit, alors même que vous êtes seule dans cet appartement, votre mère qui tombe en arrivant
du train
et que vous baladez sur un chariot complètement saoul jusqu'à l'appartement.
Oui, et oui.
Et la récurrence de son incapacité à s'occuper de moi, et puis cet alcoolisme très jeune. J'ai mis du temps à arriver à me dire qu'elle était morte à 33 ans, ce qui est quand même très jeune, et de l'imaginer avec un alcoolisme aussi prononcé et aussi destructeur, accompagné des médicaments, enfin d'une vie qui était quand même une vie très tournée vers l'autodestruction. Et donc j'ai d'abord posé les souvenirs qui étaient les souvenirs noirs, comme s'il fallait que je m'en débarrasse. J'avais pas d'éditeur à ce moment-là. Je l'ai fait pour ça a été, voilà, c'est allé assez vite, et quelque part ça c'était pas le plus compliqué.
Le plus compliqué, ça a été quoi?
Ça a été la suite, c'est-à-dire une fois que ça s'était posé, d'aller regarder le reste et de se tourner vers la partie lumineuse.
Puisque le livre est construit de cette façon-là, et c'est pour cette raison que vous êtes allé voir donc
Eva Darlan, plein de gens, en fait. Kolinka,
Marianne Sergent,
oui, Jacques Doyon, ouais. Enfin plusieurs personnes qui m'ont parlé d'elle, et ça a changé mon regard, et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que maintenant, si je pense à elle, je n'ai pas d'abord les images sombres que j'avais, j'ai d'abord des images qui sont des belles images, des images où on rigolait, pour reprendre votre terme, des images où elle est souriante, où elle est belle, où elle est drôle, où elle est cette partie en tout cas d'elle.
Alors il y a une autre partie aussi que vous découvrez d'elle, c'est son féminisme. Vous découvrez qu'elle dessinait les couvertures de la revue Les Pétroleuses, qu'elle a jeté son verre à la tête d'Alain Delon, mais ça c'était très connu comme anecdote à l'époque, parce qu'il faisait des remarques sexistes. Elle ne serait pas...
J'entends Josiane Balasco, qui n'est pas dans le livre, mais avec qui j'ai aussi discuté. Elle me dit, tu te rends compte, mais elle l'a fait. Elle me dit, mais nous, mais jamais on aurait osé. Elle, pas de problème, elle l'a fait. Et parce qu'il avait eu une remarque qu'elle estimait misogyne, et je crois que les autres qui étaient autour estimaient aussi misogyne, mais elle avait fait pas simplement l'intérieur du verre, hein, pas simplement liquide, le verre lui-même,
tout, le liquide et le verre sur la gueule de Delon. Elle ne serait pas une femme gelée, selon les mots d'Annie Ernaux. Donc vous avez aussi convoqué Annie Ernaux dans ce texte-là. Oui.
J'adore Annie Ernaux, et en même temps, j'adore absolument Annie Ernaux, mais c'est vrai qu'elle parle de femmes qui sans doute sont majoritaires à pouvoir se reconnaître dans ce qu'elle raconte, mais qui, moi, m'évoquent pas. J'ai pas connu cette femme gelée, alors ni moi, mais ni ma mère, donc c'est pas une image de femme que je connais, c'est une image de femme que je connais dans la société, que j'imagine, que j'observe, mais qui n'est pas dans la filiation familiale du tout. Ma mère n'était pas du tout une femme gelée.
Ni sa propre mère. Qui est très particulière.
Elle était aussi un peu gelée.
Elle était frappée. Mais
gelée du point de vue des sentiments, un peu.
Oui,
quand
manifestement.
Même.
Oui. Vous racontez une anecdote absolument incroyable à la mort du mari, donc de cette femme, de votre.
Du père de ma mère.
Qui était on va dire, quelqu'un de l'ordre de l'extrême droite.
Pas de l'ordre, complètement. Il a fondé le Front National, qui s'appelait à l'époque, pas tout à fait comme ça, mais
avec
Jean-Marie Le Pen. Il était militant de l'Ouest, clairement.
Et donc, cet homme disparaît assez rapidement, en fait, et votre grand-mère envoie un télégramme à la sœur de votre mère, qui s'appelle Catherine, un télégramme très particulier.
Ah, complètement insensé. Elle avait pourtant de l'argent, elle était dentiste, et elle n'est pas là, et elle lui envoie, il s'appelait André, donc on l'appelait Dédé, donc elle lui envoie D-D-D-C-D. C'est-à-dire 5 lettres pour lui expliquer que son père, donc Dédé, était décédé. Ce qui est d'une violence absolument...
Ce qu'a fait la mère de Duras, oui, avec Duras, pour lui parler de la mort de son frère.
C'est-à-dire pareil?
Oui, elle a dit le nom de son frère, décédé.
Bon, c'est peut-être une question d'époque, alors.
Non,
au moment où elle... Avant son premier texte, au moment où elle avait écrit un texte pour le ministère des Affaires étrangères sur... Avant barrage contre
le Pacifique.
Voilà, donc c'est en tout cas ça raconte quand même un personnage, hein, d'arriver à faire ça, et,
mais est-ce que ça
et
veut
l'ambiance
dire...
à la maison.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que votre mère s'est construite contre ses parents, comme vous-même vous vous êtes construite d'une certaine façon contre votre mère?
Je pense, oui, que notamment elle était au moment du mouvement de libération des femmes, elle aimait beaucoup cette liberté, cette contestation des normes établies, de l'ordre, des rapports de domination. Et je pense que c'était quand même quelque chose qui s'opposait à ce qu'elle avait senti dans la maison. Et en même temps, c'est mélangé, parce que ma grand-mère, qui était d'un point de vue sentimental et affectif très gelée, était une femme active, incroyablement active pour son époque, puisqu'elle était dentiste.
Elle avait lutté pour être
dentiste. Était fille de chef de gare, elle avait aucune... Je ne sais, mais après-guerre, sans doute qu'on devait recruter, donc elle faisait partie vraiment des pionnières. Et c'était une femme très indépendante sur le plan économique. Enfin, je veux dire, elle était parfaitement autonome, mais elle avait pas le temps de s'occuper des enfants. Elle se plaignait toujours d'avoir des enfants, que c'était une catastrophe d'avoir des enfants, parce qu'elle avait pas le temps, elle pouvait pas faire tout ce qu'elle avait à faire. Mais je pense que pour les enfants, c'était difficile, ouais.
Alors, en parlant de mère, sans être lacanien, vous avez choisi ce son-là. Sans être lacanien, mais un peu quand même.
Un peu quand même,
Clémentine Autain.
Oui,
alors, ce son de mère, pour quelle raison?
Oui.
Parce qu'il y a pas mal de, bah, de mères, M-E-R, même dans le texte.
Oui, alors...
D'anecdotes très précises, d'ailleurs.
Moi, c'est pas la guerre dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. C'était la mère tout le temps qui a hanté mes nuits et qui, jusqu'à aujourd'hui, régulièrement encore, je rêve de la mer. Alors, la mer agitée, beaucoup, beaucoup la mer agitée, puis la mer calme, puis la piscine, qui est un peu la fausse mer. Mais il y a toujours cette présence de la mer et j'adore aller voir la mer. Voilà, et
vous avez fait une analyse?
Oui. On ne peut rien vous cacher.
Non, mais ça se voit. On a bien compris.
Oui, oui.
Et de cette mère-là, vous en avez parlé? Ça a été le sujet? Alors même que vous le taisiez par ailleurs?
Oui, bah forcément. Hein. J'ai fait un long travail. Donc oui, c'est apparu. Pas seulement, mais c'est apparu, bien sûr. Fortement.
Et ce texte, justement... ne peut être possible qu'après avoir fait une analyse.
Ce texte, à mon avis, ne peut être possible qu'à partir du moment où j'ai été convaincue que je ne sombrerai pas comme elle. C'est-à-dire que ma construction s'est faite en opposition à elle parce que je ne voulais pas sombrer comme elle. Et à partir du moment où j'ai eu vraiment la certitude que j'étais suffisamment solide pour ne pas du tout lui ressembler dans cette partie sombre, je pense que c'était possible de regarder l'autre partie. Et je pense que c'est à la fois, c'est une histoire un peu exceptionnelle qui est liée à sa mort précoce, à son parcours, à son statut, au mien aussi, à mon parcours.
Bien sûr.
Mais il y a quelque chose de très universel dans cette affaire-là. Je veux dire, tout le monde est confronté à qu'est-ce qu'on fait de l'héritage parental, comment on se débrouille, on se fait contre, on a envie d'être contre, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est contre, enfin, on a pris quand même une partie, comment on fait, comment on règle ses comptes avec ses parents. C'est vraiment universel comme question.
Et ben c'est la question que l'on va travailler aussi avec Marianne Bessler, puisqu'elle est au centre de la pièce L'autre fille. On va en parler dans quelques instants.
Na rabuda que manda no requebrar. A crioula que boia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que fui a te ama, te beija pra viajar. Sou eu, sou eu.
La voix de l'Angolaise Pongo dans le NRV, elle sera en concert au festival Les Femmes s'en mêlent à Paris le 6 avril prochain et au Printemps de Bourges le 18 avril.
France Inter.
Peut-être que je résistais à croire à ton existence. Que je préférais la supprimer.
Le nouveau rendez-vous.
Est-ce que je t'écris pour te ressusciter et te tuer à nouveau ?
Laurent Goumard.
Petit extrait chuchoté. Pour ouvrir ce plateau avec vous, Marianne Bassler, vous reprenez L'autre fille au théâtre Les Déchargeurs à Paris. C'est un texte d'Annie Ernaux. Cette autre fille, c'est Ginette. Elle est morte à l'âge de 6 ans, en 38. Annie Ernaux naîtra 2 ans plus tard, en 1940. Et le texte est une lettre adressée à cette sœur jamais connue, une sœur cachée. Comment vous avez découvert ce texte? À quelle occasion?
Par hasard, moi, j'avais découvert Annie Ernaux avec La Place. Et je pense que j'ai réellement accroché, été bouleversée avec les années. Ce livre fleuve où elle énumère les objets qui ont traversé les vies du siècle. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de revisiter notre histoire à travers les objets et l'incidence qu'ils ont eue sur nos vies. Et puis je me suis mis à dévorer Annie Ernaux et je suis tombée sur ce texte-là et qui m'a poursuivie. Un jour, j'ai demandé à une amie, Nadine Hegels, de pouvoir le lire dans son association Texte et Voix, qui lit des premiers romans publiquement. Et je me suis dit, ce n'est pas possible d'en faire une pièce, donc je l'ai mis de côté. Et une autre fois, on m'a demandé de faire une autre lecture publique, cette fois en mouvement. Et donc, j'ai refait une lecture publique de ce texte. Et à ce moment-là, j'y ai trouvé une matière théâtrale. Mais s'il m'a obsédée, qu'il m'a poursuivie, je crois aussi que c'est parce que, comme souvent chez Annie Ernaux, elle s'adresse à une part infime de son histoire qui nous concerne tous, qui rejoint... Elle parle dans L'événement de son avortement, dans La Place de la mort de son père, dans Une femme de la mort de sa mère.
Dans la honte de son milieu social, de ses origines.
Le fait que son père a failli un jour tuer sa mère parce qu'il s'était bagarré pour je ne sais quelle raison. Et donc, de ses premiers émois dans Mémoire de fille. Et là, tout à coup, j'ai découvert, comme elle... qu'il était arrivé dans mon histoire familiale une histoire que, comme elle, j'avais oubliée. Et quelque part, c'est ça qui m'a fait nous rejoindre, c'est cet oubli, l'analyse de cet oubli, l'analyse de cette absence de questions que moi-même j'ai eue là, en l'occurrence, c'était un frère disparu avant la naissance de ma mère. Et ça a été... Ça m'a donné beaucoup de réponses à cette violence dont je parlais
tout à l'heure,
à l'heure, que j'ai ressentie dans mon enfance, qu'il y avait dans l'enfance
d'Annie Ernaux.
Alors, vous parliez de la femme gelée. Annie Ernaux a écrit La femme gelée, mais en même temps, c'est parce qu'elle a changé de milieu social. Ça ne se trouvait pas dans sa famille, une femme gelée. Sa mère était épicière, sa mère avait quelque part un rôle plus important, il n'y avait pas de féminisme, elle occupait la place, en l'occurrence.
Au vrai terme du terme,
tandis
au vrai sens du terme.
Oui. Elle est arrivée dans un milieu bourgeois, celui de son mari, elle a trouvé cette place-là, la femme qui s'occupe du ménage, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants. Elle a arrêté d'écrire pendant 9 ans, quand même. Son premier livre, elle l'a écrit à 33 ans. C'est marrant, vous parlez de la mort de votre mère à 33
L'âge
ans.
L'âge du Christ, la mort de Marilyn Monroe,
exactement.
33 ans.
Ouais.
Et Les armoires vides, elle l'a écrit à 33 ans. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui a fini par me hanter, c'est cet oubli de cette histoire, enfin, de ce récit dans ma propre histoire, ce récit que j'avais dû déjà entendre, comme elle l'avait déjà entendu. Mais ce qui fait qu'elle a connecté, c'est que sa mère dit, en racontant cette histoire, ce récit à une cliente de l'épicerie, elle dit qu'elle était plus gentille que celle-là. Donc tout de suite, ça la positionne, ça remet en question sa vie, ça remet en question l'amour de ses parents. Et elle dit « j'ai écrit contre elle ». Elle avait une relation très, très volcanique, très conflictuelle, très contrastée avec sa mère, comme pas mal de filles, probablement comme moi aussi, dans laquelle je peux effectivement me retrouver. Et elle dit « j'écris contre elle, pour elle, à sa place d'ouvrière fière et humiliée ». Et je crois que c'est ce qui m'émeut aussi beaucoup dans cette écriture, c'est cette écriture plate qui veut
dans le transfuge qui est le sien, parce que je trouve que c'est très beau, cette thématique du transfuge social. Elle n'est pas du même milieu social que ses parents. Ça crée une béance entre elle et ses parents. Et elle a quelque part, par l'écriture, voulu les rejoindre en n'ayant pas une écriture sophistiquée, une écriture que sa culture, ses études ont pu lui donner, mais une écriture qui est au plus près du fait, une écriture factuelle.
Et une écriture que pouvaient lire ses parents. C'est pour ça aussi qu'elle a choisi cette façon d'écrire.
Et l'émotion surgit, non pas d'une analyse du fait, mais du fait lui-même et du chemin qu'on a chacun par rapport à ce fait. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant.
À quel moment, Marine Bassler, vous avez compris que vous vouliez être actrice ?
Moi, je crois que je l'ai compris à 11 ans. Et moi, j'étais vraiment quelqu'un de très emmuré. Et effectivement, le fait de pouvoir m'exprimer à travers un texte m'a beaucoup surpris. J'ai été surprise de pouvoir dépasser cette timidité. Et donc après, quand j'étais dans cette école avec Lio,
cette école formidable où il y avait tout le monde,
école, il y avait non seulement un prof de français formidable qui nous emmenait au théâtre, mais il y en avait un autre de latin qui nous faisait faire du théâtre. Et donc un jour, il est rentré dans les classes, il a dit qu'il veut, et donc j'ai levé le doigt et tout de suite, je suis montée sur scène et je n'ai plus quitté la scène depuis mes 14 ans, grâce à ce lycée merveilleux. Je ne pense pas que Lio y a trouvé sa voie, elle, par contre.
Non, elle se faisait arrêter par les flics, par ailleurs. Clémentine Autain, dans les sons que vous aviez choisis, mais on ne va pas le passer, vous aviez aussi choisi les trois coups du théâtre. Pour quelle raison ?
Parce que j'adore le théâtre et que c'est un son d'enfance. Parce que mon père m'amenait au théâtre très, 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 très souvent, ce qui est une grande chance. Et je me suis endormie au théâtre.
Avec bonheur.
Enfant, avec bonheur. Et je suis passionnée de théâtre et je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller au théâtre comme j'aimerais y aller. Mais c'est vraiment un son qui est un son... j'aime le spectacle vivant, particulièrement plus que le cinéma. Et donc ces trois coups comme ça, c'est... Ouais, c'est un bon moment d'enfance.
Et de moins en moins, les trois coups, ils y sont, peut-être, des déchargeurs ? Non, il n'y en a plus.
Surtout pas au théâtre des déchargeurs. Non,
mais certainement pas à Paris.
Mais c'est marrant que vous dites que vous êtes endormie, c'est que vous étiez bien, moi.
Ouais.
Je me souviens d'un spectacle de Noren où je devais m'endormir sur scène. Je m'endormais tous les soirs. C'est un lieu où je me sens bien. La scène.
Non, mais c'est ce qui est compliqué avec le théâtre, c'est que je comprends la difficulté de rentrer dedans. C'est parfois on s'ennuie au théâtre, ça fonctionne pas, ou on n'aime pas, ou on n'accroche pas. Et je pense que en revanche, quand on accroche, c'est incroyable ce qui se passe. Et donc il faut accepter que parfois, oui, on s'ennuie au théâtre.
Mais comment on peut s'ennuyer au cinéma ?
Oui, mais je pense qu'au cinéma, il y a quelque chose qui
interpelle plus le théâtre. Moi, je me rends compte, je suis allée en province avec l'autre fille. Et après, les gens, ils me quittent plus. On a eu à Metz la possibilité de discussions interminables, à Villars. C'est quand même un lieu de communion. Il y en a plus des lieux comme ça.
Alors justement, sur scène, puisque vous disiez au départ que c'était difficile à mettre en scène véritablement, qu'il n'y avait pas une dimension théâtrale. Puis vous avez compris qu'au fur et à mesure, il pouvait y avoir une mise en scène.
J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à tirer les bons fils. Et je crois...
Parce que vous co-signez la mise en scène, ouais.
Oui, parce que je pense que la mise en scène est venue avec Jean-Philippe Puy-Martin,
ouais.
elle est venue de nos sensations, de... moi, elle convoque ses fantômes, et moi j'ai un rapport très, très fort avec mes fantômes. Elle luttait contre la longue vie des morts, elle dit... Et c'est vrai que moi, je ne cesse d'avoir ce dialogue avec mes disparus. Et j'ai le sentiment de les convoquer. Et c'est en pensant à ce texte, en y pensant, en parlant toute seule, que je me suis dit, mais elle ne fait rien d'autre que ça. Et donc, je pense que la mise en scène est venue de nos sensations. On n'a pas dit, tiens, on va faire ça comme ça. Il y a trois autres filles qui sont en ce moment avec une mise en scène, à mon avis, très très belle de Cécile Baquez, dont l'autre fille va être donnée l'année prochaine. Mais nous, elle est venue de ce sentiment charnel que petit à petit, cette autre fille arrivait. Et donc, il y a une porte dans le fond du plateau qui est très belle quand on joue dans une grande scène parce qu'on a l'impression qu'elle flotte. Il y a des moments où elle s'éclaire, il y a des moments où elle s'ouvre. Et donc, il y a cette... c'est une mise en scène assez simple, mais...
Annie Ernaux est venue vous voir ?
Alors, Annie Ernaux devait venir un samedi. Comme vous savez qu'il y a certains RER qui n'ont pas fonctionné le samedi. Donc, elle va revenir un samedi. Maintenant, on s'est habitué à... Enfin,
à jouer avec l'actualité. L'autre fille, c'est au Théâtre des Déchargeurs, dans une mise en scène de Jean-Philippe Puymartin et de vous-même. Ça sera à partir du 19 mars prochain à Paris. Dites-lui que je l'aime, c'est chez Grasset, Clémentine Autain. Vous restez avec nous toutes les deux. Tout de suite, c'est la dernière partie de la première partie du Énervé avec les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers ?
Non, madame, des musiciens.
Marion, vous expliquez le principe ?
Les nouveautés nouvelles, c'est ce qui va sortir demain. C'est ce qu'on va pouvoir écouter sur les internets, sur votre platine vinyle, dans votre playlist. Je ne sais pas, vous écoutez quoi, vous ? Sur quel support ? Vous avez une playlist ? Vous avez ressorti votre platine vinyle ?
Pas de vinyle.
Non, je n'ai pas de vinyle. Non, moi, j'écoute...
Sur votre téléphone ?
Sur mon ordinateur.
Oh là là, bah
bon, c'est comme ça. Oh, désolée.
Mais on a le droit en même temps, c'est comme ça, voilà.
Mais mes filles sont pleins de supports très sophistiqués, donc parfois ils me mettent de la musique très fort et c'est très beau.
D'accord.
Bon, alors, j'aime bien en direct, personnellement.
Ah oui, la musique live, c'est toujours mieux. Alors on fête le retour cette semaine d'un petit maître de la pop anglaise, il s'appelle Bill Pritchard. C'est un francophile, il a même été prof de français dans le civil, dans une petite ville à côté de Birmingham. Et c'est depuis ses débuts un fan de la nouvelle vague, des yéyés. Son idole absolue, c'est Françoise Hardy. Et la légende dit que Serge Gainsbourg aurait dit de Bill Pritchard « Nice voice, nice face, very good ». Alors à la fin des années 80, ce crooner pop vient donc s'installer en France. Il traîne à Paris aux côtés d'un certain Daniel Darc, avec lequel il finit par enregistrer « Parce que », un petit chef-d'œuvre de Spleen, un disque culte produit par le parrain du bon goût Étienne Dao et réédité cet automne par la Maison Piace. Depuis, Bill Pritchard, il n'a pas cessé d'écrire des chansons mélancoliques, mélodiques, comme des petites cousines de celles de Loy Cole. Mais loin de tourner autour de son nombril, ses chansons à lui, elles contestent, elles protestent contre la bêtise et la folie de tous bords. Et sur son dernier album, Midland Lullabies, le plus Frenchy des British, ne s'est pas calmé. Depuis son Angleterre profonde, il continue de dénoncer les maux de l'époque et poursuit toujours la même quête du Graal, écrire la parfaite chanson pop. Do they weave and print, 'cause they all experiment, and now everything's been spent in forever. Le crooner Bill Pritchard, Forever, c'est extrait de son nouvel album Midland Lullabies. Ça sort demain chez Tapiti Records.
Je vois votre fils Clémentine Autain qui est avec vous dans le studio. Oui. Il écoute quoi comme musique, lui ?
Oh, il faudrait lui poser la question. Parce
du rap ?
Il a Angèle. Une vie très très personnelle avec lui pour le coup.
Angèle ?
Sans non. téléphone. Et je saurais pas trop bien dire ce qu'il écoute, franchement. On à va. Part qu'il écoute encore, il a 11 ans, donc il écoute encore aussi des choses que moi j'écoute en fait. Donc on chante aussi beaucoup ensemble. Cet été, on a tous chanté sur Oshi en tête, à tue-tête, comme on dit, voilà. Et donc on a des albums comme ça qu'on remet, ou sur Jane. Je sais qu'il aime beaucoup mon fils Jane. Mais il aime bien ses voix, un peu comme ça.
Non, il aime plus Jane, manifestement.
Ah,
il
nous fait un
ça. Ça va très vite avec ça, à cet âge-là. Alors, on poursuit avec un des artistes les plus cool de la scène indépendante nord-américaine. Il s'appelle Mac DeMarco. Le genre de type qu'on adore avoir comme pote de virée. Celui qui va mettre l'ambiance dans une soirée coincée. Mac DeMarco, c'est 4 albums sous le signe du lo-fi. Alors, le lo-fi, c'est quoi? Eh ben, c'est faire beaucoup avec peu. Une guitare achetée $30, quelques pédales d'effet, un clavier d'occasion. Et ça lui suffit pour écrire des chansons. Mais vraiment très 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 détendues les chansons, accompagnées de vidéos psychédéliques. Avec son public, notre loufoque canadien joue sur la proximité, il plonge dans les spectateurs, il raconte des histoires drôles, il fait le malin, on l'adore. Blague à part, Mac DeMarco possède un vrai talent d'écriture nonchalante. Ça se confirme sur son nouvel album. Il est annoncé comme un disque de cow-boy. Mais alors ce qu'il met, lui, derrière le mot cow-boy, c'est très très loin de la country traditionnelle et des mâles alphas perchés sur leur dada. Non, cow-boy, pour Mac DeMarco, c'est plutôt un terme affectueux donné aux gens qu'il aime. Un disque qu'il dit avoir enregistré dans son garage à Los Angeles en 15 jours, au mois de janvier, là. Il y joue de presque tous les instruments. Et on peut même y entendre, paraît-il, si on est attentif, le bruit de la pluie qui tombe sur les fenêtres du garage. For the creature. Television. Nobody, le nouveau Mac DeMarco, extrait de son album qui va paraître le 10 mai sur son propre label, Here Comes a Cowboy. Et on conclut, Laurent ?
On conclut avec le troisième titre.
Avec le son d'une guitare. Alors, est-ce que c'est celui d'une Fender Telecaster Dohanu ? Ou est-ce que c'est une Gibson Firebird 7 ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce son de guitare,
pour
c'est
moi,
celui...
une guitare, c'est une guitare.
Mais pas du tout, mon Dieu, quelle horreur. C'est celui des Black Keys. Les Black Keys, c'est un duo né au début des années 2000 dans l'Ohio, avec Dan Auerbach au chant à la guitare, Patrick Carney à la batterie. Alors, The Black Keys, pour ceux qui vivaient dans une grotte depuis le début du millénaire, c'est vraiment un des groupes emblématiques du rock américain, si ce n'est le plus emblématique depuis la séparation des White Stripes. Notre héros, Dan Auerbach, joue, il a toujours, enfin, disons qu'il a une qualité de jeu assez incroyable. C'est à la fois fougueux, et très humble, avec un son vintage, crunchy à souhait, comme les Stones ou Led Zepp en leur temps. Les Black Keys ont fait beaucoup et font toujours énormément pour maintenir l'Americana, c'est-à-dire toutes les musiques traditionnelles américaines vivantes. Depuis une dizaine d'années, ils prennent chacun l'air, avec les projets solo. Et dans le cas d'Dan Auerbach, eh ben, il produit régulièrement des artistes très connus comme Lana Del Rey, ou alors il va dénicher des perles dans le blues et dans la soul du Deep South. Alors depuis 5 ans, calme discographique chez les Black Keys, et là, breaking news en début de semaine, le duo revient avec un seul titre, excitation maximum, mais pas de panique, ne changez rien dans vos dates de vacances, pas d'album, pas de tournée annoncée pour le moment, on sait juste que Lo-Hi a été enregistré et écrit par le groupe chez lui, dans leur studio de Nashville, et qu'on découvre en exclu maintenant dans le NRV.
La programmation signée Marion Guilbeault. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
J'ai 30 ans, 10 ans de terrorisme, 20 ans de Bouteflika. Il y en a marre.
Algérie, un autre printemps arabe. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.